La sellette. Durant l'Ancien Régime, la sellette était un tabouret sur lequel étaient placés les prévenus. Cette pièce de bois, très basse, était taillée pour humilier l'accusé. Bonjour, ici Marie et Jonathan pour une première émission de La Sellette, donc une émission sur la justice et surtout sur la violence judiciaire. C'est une émission qu'on va faire une fois par mois, tous les deuxièmes jeudis du mois sur Canal Sud, et c'est un créneau qu'on partage avec Bruit de Tôle et L'Envolée. La Sellette, c'est d'abord un site internet, lasellette.org, sur lequel on essaye de poster chaque semaine une chronique d'audience. C'est aussi un bouquin paru aux éditions du Bout de la Ville en octobre dernier. Et dans cette émission, on va faire quoi? On va parler de la violence judiciaire ordinaire telle qu'elle s'exerce notamment en comparution immédiate. Alors, pourquoi la comparution immédiate?
Comparution immédiate, on en a tous entendu parler, on en entend parler maintenant et au moment de la répression des mouvements sociaux, mais c'est une procédure qui juge à Toulouse plus d'une dizaine de personnes par jour, 5 jours par semaine. Et c'est une procédure qui envoie massivement en prison. Les procédures de comparution immédiate remplissent les maisons d'arrêt. Ce qui était pensé pour être une procédure au départ exceptionnelle, elle s'est en fait complètement généralisée. Et en 2021, d'après les chiffres du ministère de la Justice, c'est 59 000 personnes qui ont été jugées selon cette procédure.
59 000 personnes dont l'immense majorité va être envoyée en prison. Pour cette première émission, on va commencer par vous lire une chronique qui est tout à fait représentative de la manière dont ça se passe habituellement. Une chronique qui s'appelle 11g4.
Le tribunal.
Toulouse, chambre des comparutions immédiates, octobre 2020. Dans le box, le prévenu a l'air terrifié. Adil Bey est né à Tanger dans les années 80. Il a vécu longtemps à Barcelone et vient tout juste d'arriver à Toulouse. Il comparait pour avoir vendu 11g4 de résine de cannabis. Les faits ne sont pas contestés. À la sortie d'un lieu de vente bien connu et surveillé par la police, un acheteur a été interpellé. Il a décrit le vendeur aux forces de l'ordre qui l'ont immédiatement arrêté. Invité par la présidente à demander à Adil s'il a un commentaire à faire sur ce résumé de l'affaire, l'interprète traduit les explications du prévenu en pleurs. Un black m'a remis 2 capsules et m'a dit de les donner à l'acheteur en échange de 20 euros. Moi, ça fait 3 jours que je suis à Toulouse, je n'ai pas mangé, je n'ai rien. La présidente s'étonne. Comment se fait-il qu'on le trouve sur un lieu de vente 3 jours après son arrivée? Sans même laisser à l'interprète le temps de traduire la question, elle ajoute, fine mouche. Premier jour, première transaction, on l'attrape, c'est pas de chance. Pendant que la présidente jette un bref coup d'œil à l'enquête sociale rapide, le prévenu prend la parole. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne suis jamais allé en prison. Je n'ai jamais fait ça. » L'audience suit son cours. Sans parvenir à réveiller l'assesseur qui sommeille à la droite de la présidente, le procureur se lance dans une tirade un peu longue sur le fléau de la drogue. Manière d'annoncer par avance que le jeune homme en pleurs qui a vendu ses quelques grammes n'a aucune indulgence à attendre de sa part, il explique que le parquet mène une lutte acharnée contre les stupéfiants, en s'attaquant indistinctement à tous ses acteurs, les grands trafiquants comme les petits revendeurs. « La réponse pénale se doit d'être ferme », dit-il. Certes, le prévenu n'a pas de casier, mais ça pourrait s'expliquer par son arrivée récente en France. Il requiert donc 6 mois de prison et le maintien en détention pour plus de sûreté. Pour justifier sa décision, il brosse les méfaits hypothétiques d'Adil Bey. Monsieur Bey pourrait sinon sortir, dit-il, et aller ce soir même vendre de la drogue. Tout à ses spéculations, il se sent aussi obligé de demander une interdiction du territoire français pendant 3 ans. Il ajoute « C'est une peine complémentaire que le parquet n'a pas plaisir à requérir », précise-t-il d'un air navré. « Mais, ajoute-t-il encore, Il s'agit d'éviter que le prévenu s'inscrive durablement dans le trafic de stupéfiants sur la région toulousaine. Beaucoup de prudence, donc. L'avocat de la défense souligne crûment la minceur du dossier, le peu de choses qu'on sait sur le prévenu et l'insignifiance des quantités. On parle de 11,4 g de cannabis. On a trouvé 40 € sur lui. On est sur un dossier qui ne mérite pas des peines aussi lourdes. Un mandat de dépôt pour un primo-délinquant, ça me choque. Il plaide donc pour une peine d'avertissement, de la prison avec sursis par exemple. Le tribunal ne retient pas cette possibilité et condamne le prévenu à 4 mois ferme avec maintien en détention, assorti d'une interdiction du territoire et de la confiscation des sommes trouvées sur lui. Toujours en pleurs, Adil Bey est emmené. Et il est emmené où ? Il est emmené dans les geôles du palais de justice, où il attendra la fin de l'audience, fin de journée, que les 13 prévenus, qui sont habituellement jugés tous les 5 jours par semaine en comparution immédiate à Toulouse, et tous étaient jugés. Et à la fin de la journée, un fourgon de l'administration pénitentiaire viendra à toutes les personnes condamnées à de la prison ferme avec mandat de dépôt. Un fourgon viendra les chercher pour les emmener à Saïs. Il faut aussi se rendre compte qu'il ne sortira pas si facilement de Saïs à la fin de sa peine, parce que ça fait une vingtaine d'années que l'administration pénitentiaire a développé un partenariat avec les services de la préfecture. Et du coup, quand il y a quelqu'un qui rentre en détention qui n'a pas de papier, l'administration pénitentiaire envoie une fiche au service de la préfecture qui, à son tour, notifie une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. À la personne pendant qu'elle est en détention. Ce qui fait qu'à la fin de sa peine, la police aux frontières viendra directement le chercher dans la cour de la prison pour l'emmener au centre de rétention de Cornebarieux. Et pour peu qu'il proteste au moment de rentrer dans l'avion, qu'il pousse des cris ou qu'il se débatte, ça constitue une infraction pénale. Et il sera à ce moment-là renvoyé devant la chambre des comparutions immédiates, condamné à nouveau, renvoyé à Saïs et renvoyé à la fin de sa deuxième peine au centre de rétention de Cornebarieux. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont pris dans des boucles d'enfermement qui peuvent être assez longues.
De la prison au crin et du crin à la prison, en passant par le tribunal. Comment on arrive en comparution immédiate ? Un policier va estimer qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que quelqu'un a commis un délit, et il va l'arrêter, il va le placer en garde à vue. Immédiatement, il va en informer le procureur de la République. C'est en France le procureur de la République qui contrôle les mesures de garde à vue. Il y a une permanence pour ça, elle est au quatrième étage du tribunal de Toulouse. On appelle ça le service de traitement direct. Et il y a plusieurs procureurs qui, toute la journée, contrôlent les mesures de garde à vue qui sont prises dans le département. C'est le procureur de la République qui va décider, par exemple, de renouveler ou pas une garde à vue, ou d'y mettre fin. C'est le procureur de la République, surtout, et pour ce qui nous intéresse, qui va décider de ce qu'on fait de la personne à l'issue de la garde à vue. À l'issue de la garde à vue, soit la personne elle est relâchée, soit elle est convoquée pour une audience qui aura lieu dans plusieurs semaines, soit il va le décider de faire juger la personne le jour même. Alors pour le guider un petit peu dans ce choix, il va prendre plusieurs renseignements auprès du policier qui a arrêté la personne. Bon, déjà, quels sont les faits? Est-ce qu'ils sont reconnus? Mais ensuite, lui, il va regarder est-ce que la personne elle a des antécédents judiciaires, comprendre est-ce que la personne elle a déjà été condamnée par une juridiction. Et aussi, il va prendre pas mal de renseignements qu'on pourrait dire sociaux. Est-ce que la personne a des papiers? Est-ce que la personne a un travail? Est-ce que la personne a un logement? Etc. etc. Pourquoi en fait? Parce que le procureur, il veut s'assurer que la personne se présentera à l'audience. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la loi. Une des possibilités pour le procureur de faire passer quelqu'un en comparution immédiate, c'est parce qu'il va estimer, par exemple, qu'il n'est pas sûr, qu'il n'est pas garanti que si on convoque la personne plusieurs semaines plus tard, elle se présentera. C'est donc ce qu'on appelle les fameuses garanties de représentation. Est-ce que quelque chose nous garantit que la personne se présentera au tribunal? La loi, elle définit pas ce que c'est les garanties de représentation, mais c'est l'usage, c'est la pratique des gens de justice de considérer que les garanties de représentation, ben c'est quoi? C'est des papiers, c'est un logement, c'est un travail, c'est une famille. Et il suffit qu'une personne mise en cause ait pas, alors, pas de papier, pas de logement, qui soit dans une situation professionnelle précaire, pour que le magistrat du parquet se dise « il n'est pas sûr que si on convoque cette personne, elle viendra ». L'autre critère, c'est le risque de renouvellement des faits. On se dit « mais si la personne est convoquée dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, peut-être que là, après sa garde à vue, elle va se remettre à commettre des infractions. » Donc là, il faut évaluer ce risque. Et sur quoi le procureur va se baser pour évaluer ce risque? Sur le casier judiciaire. Et il suffit que la personne ait commis il y a un an, il y a 5 ans, peut-être même il y a 10 ans, une infraction et qu'elle ait été condamnée pour cela, pour que le procureur considère qu'il y a un risque majeur de renouvellement des faits et qu'il faut donc immédiatement juger la personne. Garantie de représentation, risque de renouvellement des faits, voilà les arguments qui sont invoqués à l'encontre des personnes pour les faire passer en comparution immédiate. Her eyes were once so full of dreams, her young heart filled with lovers' schemes. Now every second she must borrow. They take her life tomorrow. Is she guilty? She says no. The girl on death row. Now someone holds her trembling hand. Another says, please understand. Why can't they see it in her face?
Another should be in her place. Is she guilty? She says no. The girl on death row. Her young dreams never will come true. Her innocence they never knew. Until they found the guilty one. They're sorry now for what they've done. But it's late, too late for the girl on death row. The girl.
Vous écoutez toujours l'émission de la Sellette avec Marie et Jonathan, et avant la pause musicale, on était en train de parler de comparution immédiate. Jonathan expliquait justement que ce qui fait qu'on envoie quelqu'un en comparution immédiate, ça n'est pas tant l'infraction qui a été commise que le profil de la personne. À l'audience elle-même, le profil de la personne va être convoqué dans les débats sous la forme de ce qui s'appelle l'enquête sociale rapide. L'enquête sociale rapide, c'est quelque chose qui a été inventé pour des raisons humanistes dans les années 70. L'idée, c'était qu'en fait, si on fournissait aux magistrats des renseignements certifiés sur le prévenu, peut-être que ça permettrait d'éviter, dans certains cas, des peines de prison ferme, parce que du coup, on pourrait plus facilement aménager ces peines. Voilà. Alors, dans les faits, ça se passe comment ? Pendant que le prévenu est dans les geôles du palais de justice, il y a un enquêteur, une enquêtrice qui vient, et qui lui fait passer assez brièvement un questionnaire, une demi-heure, trois quarts d'heure peut-être. Le questionnaire, c'est un questionnaire type. C'est un questionnaire type sur, je sais pas, peut-être 4-5 pages, ça dépend des endroits. Mais quand même, globalement, il y a toujours à peu près les mêmes trucs dedans, d'une juridiction à l'autre. Il se renseigne d'abord sur l'identité de la personne. Il demande toute une série de renseignements. Est-ce que le prévenu a une famille ? Est-ce qu'il est marié ? Est-ce qu'il a des enfants ? Est-ce qu'il a fait des études ? Est-ce qu'il a un travail ? Mais il demande aussi des renseignements sur sa santé, sur ses éventuelles addictions, sur son parcours de migration, éventuellement, sur ses antécédents judiciaires. Alors c'est plutôt fait à la hache. C'est-à-dire, par exemple, sur la question des addictions diverses, y a une ligne, addiction oui, non, faut cocher une case. Et dessous, il y a une seule ligne qui est laissée avec pourquoi. C'est dire si c'est rapide. Et une fois que le questionnaire a été passé, derrière, l'enquêteur ou l'enquêtrice va consacrer du temps, pas mal de temps, peut-être une heure, à vérifier chacun de ces renseignements. Et ça, c'est bien assez caractéristique du fait qu'en comparution immédiate, on ne croit jamais les prévenus, on ne croit jamais rien de ce que disent les prévenus. Du coup, tout renseignement qui n'aura pas été vérifié sera considéré comme nul et non avenu. Comment l'enquêteur ou l'enquêtrice fait pour vérifier ces renseignements ? Il prend son téléphone et il appelle les numéros fournis par le prévenu. Ça peut être un employeur, ça peut être un propriétaire, ça peut être un curateur, ça peut être un médecin, ça peut être des membres de la famille. Et il faut quand même bien dire que si jamais il était mal tombé, il tombait mal, et que les personnes n'étaient pas disponibles, ne répondaient pas à ce moment-là, ben ma foi c'est trop tard, hein. Il marquera à côté que le renseignement n'a pas été vérifié, parce que de toute façon, le prévenu comparaît devant le tribunal quelques heures plus tard. Voilà. Et que quel que soit le temps qu'on consacre à ces enquêtes sociales rapides, elles seront toujours payées la même somme. Donc, si c'est raté, c'est raté. Voilà. Mais après, on pourrait se dire, bon, très bien, mais le problème, c'est que ces enquêtes sociales, elles sont mal faites. C'est ça qui pose problème. Si elles étaient faites en beaucoup plus de temps, si on y consacrait des heures et qu'on consacrait derrière des jours à ces vérifications. Et que vraiment, au sens strict du terme, ces enquêtes sociales permettaient de donner à voir et à sentir la spécificité, l'individualité d'un parcours, d'une vie, et ben, quand bien même ce serait fait excellemment, en fait, ça changerait rien au fait principal, à savoir que ces enquêtes sociales rapides, elles donnent à voir le fait que le prévenu, les prévenus de comparution immédiate, dans leur immense majorité, eh ben, ils ont pas de travail, pas de logement, pas de papier. Donc finalement, elle ne ferait que confirmer les magistrats dans le fait qu'ils ont devant eux des représentants des classes dangereuses et des gens pour qui, de toute façon, il n'y a pas d'alternative à la détention envisageable. Parce que c'est peut-être... Enfin, c'est quelque chose dont on reparlera souvent. Dire que pour un bracelet électronique, eh ben, il faut un domicile. Pour faire du travail d'intérêt général, il faut des papiers. Donc la plupart des gens qui comparaissent en comparution immédiate, vu qu'ils ont été sélectionnés justement sur le fait qu'ils n'avaient pas de garantie de représentation, ben, du même coup, se retrouvent à ne pas être éligibles aux aménagements de peine.
Alors évidemment, l'institution judiciaire ne le dira jamais comme ça, mais la plupart du temps, ce que donne à voir les comparutions immédiates, c'est que c'est bien un profil social qui est jugé, et non finalement les faits qu'aurait commis la personne. Je dis bien qu'elle s'en défende parce qu'elle ne pourrait pas admettre aussi frontalement et directement qu'elle punit les gens parce qu'ils sont pauvres, tout simplement. Donc en fait, un des grands classiques des audiences de comparution immédiate, quels que soient les faits, ça va être des réquisitions du procureur de la République qui va se lever et qui va dire « les faits sont graves ». Alors ce qu'on a pu voir, nous, en 2 ans d'observation de comparution immédiate, c'est que quand même, et bien souvent, et comme dans l'exemple qu'on a entendu tout à l'heure, on y juge des petites bagarres, du tout petit trafic de stupéfiants, des vols de téléphone, des vols à la roulotte quasi de subsistance. Donc finalement, l'explication de la gravité des faits, qui est souvent invoquée par le procureur, c'est pas ça qui oriente les gens en comparution immédiate, mais bien leur situation sociale. Après, il arrive de ci de là que il y ait quelques erreurs de casting et qu'on se retrouve à l'audience avec une personne dans le box qui va désarçonner un petit peu les gens de justice.
C'est pas très fréquent, mais de temps en temps arrive en comparution immédiate des gens qui n'ont pas, selon la justice, vocation à s'y trouver. Là, par exemple, on va parler d'un exemple qui est d'autant plus frappant qu'il est intervenu précisément après le prévenu de tout à l'heure, celui qui passait dans l'affaire qu'on a appelée 11g4. Là, le prévenu, il comparait pour des faits beaucoup plus graves, aux yeux de la justice encore une fois, c'est-à-dire un trafic de drogue, mais qui s'est étalé sur plusieurs mois, dans des quantités beaucoup plus importantes, et en récidive. Mais il y a une différence majeure avec le premier prévenu, c'est que celui-là est un jeune garçon blond, blanc, dont les parents sont parfaitement insérés, ils sont d'ailleurs là en soutien dans la salle. Du coup, c'est un compte-rendu qu'on a appelé « Esprit d'entreprise ».
On se lève, s'il vous plaît.
L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir.
Toulouse, chambre des comparutions immédiates, octobre 2020. Thomas S., qui se tient un peu voûté dans le box, est un prévenu atypique. C'est visiblement un jeune homme de bonne famille. Ses parents sont dans la salle, vêtements et coupes de cheveux impeccables, chaussures cirées et chemises élégantes. Tout indique l'aisance. Pour l'heure, ils sont en plein désarroi, leur enfant comparaît pour trafic de stupéfiants. Jeté un an plus tôt hors de chez ses parents, qui étaient dépassés par sa consommation de cannabis, il s'est installé dans un mobilhome où il vendait de l'herbe sur Snapchat. Au tribunal, l'ambiance est bonne enfant, et la présidente note les efforts de marketing déployés par le prévenu sur le réseau social. Ça ne manque pas de couleurs et de fantaisie. Elle lit ensuite des slogans inventés par le prévenu. Les frontières sont fermées, mais pas de pénurie chez nous. 10 grammes achetés, 10 grammes offerts. Aux 10 premiers clients. Thomas S. interrompt son activité en juin 2020, mais trop tard. Il est déjà dans le collimateur des gendarmes. Entendu dans le cadre de l'enquête, il reconnaît les faits spontanément et explique aux forces de l'ordre où et comment il se fournit. Lors de la perquisition, on ne trouve chez lui que 3 grammes et 249 euros. 4 mois plus tard, à l'audience, le jeune homme semble en pleurs, pour autant qu'on puisse en juger, étant donné que le masque lui mange la plus grande partie du visage. La présidente l'interroge avec une douceur qui tranche avec la manière dont elle s'est adressée au prévenu de l'affaire précédente. Et là, comme je disais tout à l'heure, on parle du prévenu de 11g4. Certes, elle marque sa réprobation en rappelant d'un air sévère que les gens choisissent habituellement de travailler plutôt que de vendre de la drogue. Mais dans l'ensemble, l'échange est tranquille, voire bienveillant, même quand on en vient à évoquer sa précédente condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Le dialogue se déroule sans accroc. Vous dites avoir eu une enfance heureuse, vous disposez d'un bac pro lunetterie, où en êtes-vous d'un point de vue professionnel ? J'ai fait plusieurs stages, je cherche actuellement un emploi. À quand remonte votre dernier emploi ? L'année dernière. Vous dites avoir une copine depuis 2 ans. Oui, je voudrais retourner dans ma famille pour avoir un cadre plus sain et redevenir celui que j'étais. Ce n'est pas en continuant comme ça que je vais réussir ma vie, je n'ai pas envie de tout gâcher. Le tribunal semble satisfait de ses réponses. Dans ses réquisitions, le procureur signale immédiatement que ce n'est pas le genre de personne qu'on s'attend à retrouver en comparution immédiate. Il ne se risquera pas à préciser ce qu'il entend par là, mais il ne fait aucun doute que c'est à l'avantage du jeune homme, dont il met immédiatement en avant les capacités entrepreneuriales. Il ajoute « Il y a du travail sur ce site, c'est bien fait, les photos sont bien prises. Mis au service d'une activité honnête, ça pourrait donner de bons résultats. » Réalisant sans doute qu'il s'éloigne du sujet, il rappelle néanmoins que la drogue est un poison. Un problème de santé publique, il agite gravement l'index. Le message que je veux faire passer, c'est « Dernière chance, monsieur, dernière chance. » Il demande 18 mois de prison, dont 12 de sursis probatoire, ainsi que la révocation du sursis simple, ce qui ajouterait 6 mois à la peine de prison. L'avocate de la défense adresse des signes rassurants aux parents avant de commencer sa plaidoirie. « Moi, j'ai le sentiment d'un énorme gâchis. à voir là ce gamin de 20 ans, terrorisé à l'idée d'aller en prison, qui regarde ses parents qui tiennent la main. Un gamin qui a honte, parce que les faits ne lui ressemblent pas. Venant d'une famille structurée et structurante, il tombe dans la drogue, il s'éloigne de sa famille, de son projet, pour finir dans un mobil-home. Tout le monde semble sur la même longueur d'onde. À l'exception de la révocation du sursis, elle se dit satisfaite des réquisitions du procureur. Et, si le tribunal devait condamner le prévenu à une peine ferme, elle demande à ce qu'elle soit aménagée sous la forme d'un bracelet électronique, et puisse se dérouler chez ses parents, qui acceptent de reprendre leur enfant à domicile.
Finalement, le procureur, il le dit lui-même. C'est un profil que l'on ne s'attend pas à retrouver en audience de comparution immédiate. Et quand il dit ça, ça nous laisse reconsidérer pourquoi les autres personnes sont jugées en comparution immédiate. Parce que là, on est en face, finalement, comparé à l'affaire qu'on a entendue tout à l'heure. On est en face de quelqu'un qui a un casier judiciaire. Celui de tout à l'heure, il n'en avait pas. On est face à quelqu'un qui a organisé un trafic de stupéfiants, on va dire plus important. C'est pas non plus Pablo Escobar, mais... Donc on a des quantités plus importantes, sur une période de temps plus importante, avec quelqu'un qui a déjà été condamné pour ça. Et finalement, il prend une peine moins lourde, dans la mesure où, en fait, il va rentrer chez lui. Donc ce qui guide la sanction dans le dossier qu'on a écouté tout à l'heure, ben, c'est pas la gravité des faits, c'est pas les antécédents judiciaires, il en avait pas. Alors c'est quoi? C'est que la personne, elle n'avait pas de papier. Par ailleurs, il y a d'autres différences aussi, au-delà de la peine. C'est comment l'audience se passe.
L'audience se passe très différemment. C'est-à-dire, certainement, les juges sont un peu condescendants, un peu paternalistes avec ce deuxième type. Mais par contre, il lui parle décemment, à peu près, il lui parle comme un être humain, il l'interroge avec bienveillance, ils écoutent ses réponses. Et c'était très différent pour le prévenu de 11,4 g, où dès qu'il essaye d'expliquer sa situation, dès qu'il explique que c'est la première fois qu'il fait ça, dès qu'il explique qu'il vient d'arriver sur Toulouse, et aussi plus généralement, qu'il a faim, qu'il est dans une situation très difficile. La présidente, d'une part, ça ne l'intéresse pas, d'autre part, elle lui coupe la parole, et puis pour finir, elle se moque de lui. Parce que, en comparution immédiate, les prévenus sont très peu écoutés, et à peu près jamais crus. Très peu écouté parce que ça se voit tout de suite dans la distribution de la parole, en quelque sorte. C'est-à-dire que, en comparution immédiate, le moment où le prévenu peut s'expliquer sur les faits et le type de choses que le tribunal le laisse faire sont très très limités. Au début, déjà, c'est pas encore le moment de parler, parce que le président ou la présidente du tribunal va résumer les faits. Souvent, dès ce moment-là, en fait, le prévenu, il essaye de dire quelque chose, tout de suite, il essaie de dire « bah non, ça s'est pas passé comme ça », ou pas exactement, ou alors ça n'est pas moi qui ai fait ces choses-là. Là, il se fait immédiatement remettre à sa place. Pas maintenant, monsieur, vous aurez l'occasion de vous expliquer sur les faits plus tard. Là, je résume le dossier. Après vient l'interrogatoire. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Oui, non, qu'est-ce que vous faisiez là? Pourquoi? Ce genre de choses. Mais même là, ce serait normalement là le moment de parler. Ça se passe jamais si bien, en vérité, parce qu'il y a plein de choses que le tribunal ne veut pas entendre. La plupart des gens, quel que soit le type d'infraction, essayent de donner des éléments de contexte. Ils disent « bah oui, j'ai volé, mais en fait, ma situation est très difficile, je dors dans la rue depuis 3 semaines, c'est pour ça que j'ai volé ». Et le tribunal ne s'intéresse pas à ces choses-là. Les magistrats vont à peu près systématiquement couper la parole des prévenus qui essayent de donner un peu des éléments de contexte à leur affaire. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est, comme ils le disent, juste les faits. Avez-vous, oui ou non, volé ce téléphone? Et puis il va sans dire qu'il ne s'agirait pas que le prévenu se mêle de ne pas être d'accord avec la version policière.
Très mutine, toujours à corte, elle donne à qui les porte une grâce virile et forte et toujours de très bonne aloi. Dépouillée de tout équivoque, d'un noir d'encre sans rien qui choque, cuir de vache ou bien façon phoque, elles prennent force de loi. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des chastes gendarmes. Voyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. Gendarme Combalusier, avez-vous ciré vos godasses?
Oui, brigadier.
Alors veillez à ne pas les dégâter dans quelques colombins. Depuis l'aube au crépuscule, ignorante du ridicule, elle porte à qui circule les conseils du simple bon sens. Pour régler les tristes querelles des voyous et de leurs donzelles, elle danse la tarentelle sur les pieds de tous les feignants. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des brillants gendarmes, remède à toutes les larmes, seul à tout le charme des chaussettes à clous. Gendarme, aidoue sa main. Combien de contredanses avez-vous exécuté ce matin?
113, brigadier.
Gendarme, ce n'est guère. Attention, on vous surveille. Ustensiles fort sociables, elles prennent un contact aimable avec l'œil ou avec le rable du badaud qui ne sert à rien. Réformant la jeunesse oisive, elles font propagande active dans le ventre ou dans les gencives des crétins du quartier latin. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des humbles gendarmes, parurent en même temps qu'armes, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. Gendarme Otis Pifre, vous avez de la cervelle sur votre chaussure gauche.
Ouais, brigadier.
La prochaine fois, essuyez-vous aux cheveux du prévenu. Très discrète, c'est sans histoire, pendant les interrogatoires, qu'elles aident ceux du prétoire, de leur poise et de leur sagesse. Respectant toujours la cadence, elles brisent joyeuse danse, les tibias et la résistance, des malfrats vaincus qu'on confesse. Ce sont les chaussettes à clous, des juges si douces et les auxiliaires. Calmez toutes vos alarmes, vivons sous le charme des chaussettes à clous. Calmez toutes vos alarmes, vivons sous le charme des chaussettes à clous.
Le prévenu, à partir du moment où il aura quelque chose à ajouter sur les faits, au-delà du contexte, par exemple, alors, a fortiori s'il nie les faits, mais s'il cherche juste à nuancer les faits, c'est-à-dire, je ne l'ai fait qu'une fois, ou ça s'est pas exactement passé comme ça, là ça va poser un autre genre de problème, parce que finalement sa parole elle va rentrer en contradiction directe avec la parole policière. Et alors là, tout de suite, ça va raidir les magistrats et les gens de justice en général. La loi confère pas de force probante particulière aux déclarations des officiers de police judiciaire, et finalement, normalement, la parole du prévenu, elle a autant de poids que la parole de la police. Dans les faits, c'est pas exactement ça, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Dès que le ou la prévenu essaiera de nuancer, voire de contredire les constatations faites par la police, le tribunal va se braquer, va dire « mais c'est-à-dire, vous dites donc que la police ment ?»
Oui, c'est quelque chose qu'on entend très 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 souvent en audience.
Donc finalement, la parole du prévenu, dès qu'elle va s'écarter de ce que déclarent les policiers, elle ne sera pas retenue. Dès qu'elle va s'écarter de ce qui semble pertinent au magistrat, à savoir des éléments de contexte, on va lui signifier que c'est hors sujet. Donc finalement, de fait, sur une audience qui va durer 20 ou 30 minutes, il est très rare qu'on entende le prévenu plus de 2 minutes, mis bout à bout.
Ouais, parce qu'en plus, après l'interrogatoire du ou de la présidente avec le prévenu, Et ben c'est à peu de choses près fini. C'est-à-dire que le procureur, qui dans ce type de, enfin dans les procès est en charge de l'accusation, va se lever pour mener ses réquisitions. Ces réquisitions, c'est quoi? C'est expliquer pourquoi est-ce que les faits sont très graves, pourquoi est-ce que il est bien évident que c'est là la personne qui est dans le box qui est coupable, et c'est aussi demander une peine qui lui semble convenir au regard des faits. À la fin des réquisitions, c'est le tour de la défense. Donc l'avocate, c'est pareil, s'avance à la barre et va expliquer pourquoi les faits ne sont pas si graves. Bon, ça, Ça, en général, ils le font peu, mais il va expliquer pourquoi il y a des espèces de circonstances atténuantes ou pourquoi est-ce que la personne dans le box n'a pas une vie facile et qu'il faut en tenir compte. Voilà, en général, ça se passe comme ça. Et là, laissez-moi vous dire que le prévenu qui se mêlerait d'essayer de dire quelque chose se ferait très, très sévèrement remettre à sa place. Parce qu'autant les gens de justice interrompent sans scrupule le prévenu quand il prend trop de temps à expliquer les choses ou qu'il explique, à leur avis, pas les bonnes choses, autant ils sont très 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 regardants sur leur propre parole. Le dernier moment où le prévenu va avoir la parole, c'est tout à la fin de l'audience. Après la plaidoirie de la défense, le président, présidente va demander au prévenu s'il a quelque chose à ajouter à ce que vient de dire son avocat ou son avocate. Voilà. Et en général, ça va même être formulé de manière assez peu encourageante, du type « Avez-vous un dernier mot à dire à ce que vient de dire votre avocat ?»
On invite à la concision.
Et c'est quelque chose qu'on a vu très souvent aussi, de prévenus être trop longs, se faire couper. Et souvent aussi, c'est un moment où le prévenu réalise « Là, ça y est que c'est fini, en fait. C'est fini, ça a duré un quart d'heure, ça a duré 20 minutes. » Le tribunal se lève et s'apprête à se retirer pour délibérer, et puis tout d'un coup il se met à parler, il dit d'autres choses, mais là il s'entend dire que c'est trop tard.
Il est pas rare aussi qu'on entende s'exprimer le ou la prévenue beaucoup plus longuement à l'annonce du délibéré.
Ouais. Ouais, bien sûr, parce que comment ça se passe à la fin, les trois juges. Parce que comparution immédiate, voilà, il y a trois juges, un président et une présidente, qui est accompagné de deux assesseurs. Les trois personnes se retirent pour délibérer. Ça dure jamais incroyablement longtemps, peut-être. Ça dépend s'il y a plusieurs affaires, mais 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, bon. Et reviennent pour annoncer la peine, comme on l'a expliqué tout au long de cette émission, et comme on l'expliquera tout au long de l'intégralité des émissions de la Sellette. La peine est bien souvent, en tout cas à Toulouse, quasi systématiquement de la prison ferme. La prison ferme avec mandat de dépôt. C'est-à-dire des gens qui vont aller directement à la maison d'arrêt de Seyss le soir même.
Et c'est à ce moment-là que, souvent, la personne essaye de s'adresser au tribunal.
Oui.
Ne me renvoyez pas à Seyss. Et on apprend des choses. On apprend des choses sur les personnes qu'on n'avait pas entendues pendant l'audience. Ne me renvoyez pas à Seyss, j'y ai déjà fait une tentative de suicide. Ouais. Ne me renvoyez pas à Seyss, il y a des gens qui veulent me taper.
Et il y a une autre chose aussi qui peut arriver de temps en temps, c'est que quand c'est la première incarcération, tout à la fin, juste avant que le prévenu soit emmené vers les geôles, le président ou la présidente remplit une petite fiche à destination de l'administration pénitentiaire. Dans cette petite fiche, il y a... Avez-vous des maladies? Avez-vous des addictions? Avez-vous des pensées suicidaires? Du coup, il peut y avoir parfois un procès dans lequel on a à peine entendu le prévenu, et de toute façon, ce qu'il avait à dire n'intéressait personne. Et là, c'est trop tard, il est condamné, il va aller à Seyss ce soir même, et tout d'un coup, on apprend effectivement des tentatives de suicide, on apprend des maladies, on apprend des addictions graves, on apprend... Ce sera marqué sur la petite fiche qui sera fournie à l'administration pénitentiaire.
Et finalement, il n'est pas rare qu'en fait, on entende beaucoup plus le prévenu s'exprimer à la fin de l'audience, après que la peine ait été donnée, que pendant le cours des débats.
Ouais.
On va en apprendre beaucoup plus finalement sur lui, et c'est là où il aura presque quasiment le plus la parole.
Ouais. Et par ailleurs, pour dire des choses qui peuvent être extrêmement graves.
Oui.
Thank you. Blackening. Black Cobra.
Bon. Donc en fait, les personnes sont jugées après 24-48 heures de garde à vue. Leur avocat, finalement, il vient de prendre connaissance du dossier. Est-ce qu'on peut pas refuser la comparution immédiate ?
Non, au sens strict du terme, on peut pas refuser la comparution immédiate. Comme on l'a expliqué, c'est le procureur, c'est le service du procureur qui envoie les prévenus dans cette procédure. Et c'est pas quelque chose qu'on n'a pas le choix. En revanche, il y a une chose qu'on peut faire, c'est demander un délai pour préparer sa défense. Parce que, comme on l'a expliqué, la comparution immédiate, ça intervient juste après la garde à vue. Ce qui est quand même une transgression d'un principe de la justice ancien et très important. C'est que l'audience ne peut pas avoir lieu moins de 10 jours après la garde à vue. Mais vu que la comparution immédiate transgresse ce principe-là, le législateur a prévu un truc malin, c'est-à-dire que toutes les audiences de comparution immédiate commencent par cette question posée au prévenu. Acceptez-vous d'être jugé aujourd'hui ou demandez-vous un délai pour préparer votre défense ? Et si la personne dans le box demande un délai, elle va l'obtenir. C'est de droit, elle n'a pas de raison à donner. Après, la difficulté quand même qui se pose, c'est qu'à ce moment-là, va se poser immédiatement une autre question. La personne va-t-elle attendre son procès en prison, en détention provisoire, ou va-t-elle être laissée libre ? Libre sous contrôle judiciaire. Et le truc étant que, pour savoir si la personne va être enfermée en attendant son procès, eh ben, ce qu'on va regarder quoi ? On va regarder les garanties de représentation. Est-ce qu'elle a des papiers ? Est-ce qu'elle a un logement ? Est-ce qu'elle a un travail ? Est-ce qu'elle a une famille ? Et le fait de ne pas avoir les garanties de représentation, dont on vous parlait déjà tout à l'heure, va faire que la personne va être envoyée en détention provisoire.
Et bien souvent, c'est parce que le procureur de la République a estimé que la personne n'avait pas de garantie de représentation qu'il a décidé de la poursuivre en comparution immédiate. Dans ces conditions, 8 personnes sur 10 qui demandent un délai pour préparer leur défense et iront le faire en prison.
Voilà, une fois par mois, on va continuer à discuter de cette justice. On va rappeler plusieurs choses avant la fin de l'émission. Déjà que toutes ces audiences sont publiques. À Toulouse, c'est tous les jours, salle 4. Ça commence à 13h45 et c'est jusqu'à la fin de l'après-midi, voire même dans la soirée. Du coup, le mieux, c'est encore d'y aller, de se faire une idée par soi-même.
La violence judiciaire, elle se manifeste de plusieurs manières en comparution immédiate et on essaiera au fur et à mesure des émissions d'aborder à chaque fois un thème. Les avocats en comparution immédiate, les interprètes en comparution immédiate, le traitement des violences conjugales en comparution immédiate. Et par ailleurs, si vous-même ou un proche êtes passé par cette procédure, le micro est tout à fait ouvert. Vous pouvez nous écrire contact@lacellette.org et on vous accueillera avec plaisir pour parler de cette expérience.
Voilà, c'est la fin de cette émission et on se retrouve le mois prochain.
Comme le juge avait mal mangé, le premier prévenu fera un an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat, on serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même un an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS à injection d'un haut fonctionnaire en fonction. Pas de chance, pense l'avocat. Monsieur le juge, j'aurais mieux
digérer. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Tila da di 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 do da, do do da di do da, do do ti da di do da. Tila da di 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 do da, do do da di do da, do do ti da di do da. Tila da di 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 do da, do do da. Do do ti da di da da, ti da da di 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 da da, do do da di da da, do do ti da di da da.